Allez, je suis heureux de me trouver avec vous ce soir sous le regard du Seigneur pour commencer ce temps que nous désirons consacrer à l'étude de la parole sur ce sujet qui a été proposé, la vie dans l'Église. Ce soir, je me bornerai à une introduction, mais avant toute chose, nous voulons demander à Dieu le secours de son esprit. Ô Dieu notre Père, nous savons que nous sommes rassemblés sous ton regard et autour de la personne de ton Fils bien-aimé, de celui qui a toujours fait tes délices et ton plaisir. Et nous pouvons croire que si nos cœurs sont ouverts, tu veux nous faire entrer nous aussi dans ton propre plaisir, pour que nous puissions connaître quelque chose de ton bonheur au sein de ce monde de difficultés, de troubles, d'angoisses. Tu nous veux pourtant, envers et contre tout, heureux. Heureux parce que nous sommes en relation avec celui qui est immuable, avec celui dont le cœur ne peut pas changer, avec celui dont la bonté est infinie, dont la patience est si grande. Et nous voulons te demander que dans ces journées, nous puissions expérimenter quelque chose de notre relation avec celui en qui il n'y a pas de changement ou d'ombre de variation, et que dans ta grâce, selon les besoins que tu nous connais aux uns et aux autres, nous puissions recevoir la bénédiction que tu avais en vue pour chacune de nos âmes au cours de ces journées. Instruis-nous, conduis-nous, inspire-nous et donne-nous des cœurs ouverts pour recevoir ta parole et que cette parole nous interpelle et que nous puissions quitter ces lieux en ayant non pas simplement quelques connaissances de plus, mais en réalisant que ton message s'est fixé dans notre sensibilité et que ta parole orientera notre comportement dans ce monde pour que jusqu'à notre dernier souffle, nous soyons à la louange de la gloire de ta grâce en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, en ce 15 février 1985, je voudrais, avant de vous parler de la vie dans l'Église, c'est-à-dire de diverses manifestations qui peuvent avoir lieu dans le sein d'une communauté, je voudrais donc d'abord répondre à quelques questions pour nous assurer que nous sommes tous bien au clair sur ce sujet de l'Église. Qu'est-ce que l'Église pour nous? C'est la première question à laquelle je voudrais que nous puissions répondre. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Il y a deux jours, j'étais à une conférence et j'entendais un théologien dire qu'il avait posé cette question à des étudiants et que ces étudiants avaient été catastrophés de devoir écrire une page pour répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Et sur 33 élèves, je crois qu'il y en a peut-être seulement les deux tiers qui ont mentionné le nom de Jésus. Pour tous les autres, l'Église, c'était une organisation, mais on n'avait pas même parlé de Jésus-Christ. Et nous sommes en 1985, et les personnes auxquelles on avait posé la question avaient 11 ans de catéchisme, et devaient devenir elles-mêmes des professeurs enseignants dans les écoles du Québec. Alors, vous voyez que c'est quand même important de savoir de quoi nous parlons. Avant de vous parler de la vie dans l'Église, j'aimerais que nous soyons bien au clair, et je pense que vous êtes tous au clair à ce sujet, mais je me permets simplement de faire un petit contrôle. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est la première question. Si nous interrogeons les hommes, j'ai remarqué que nous recevons les réponses les plus diverses, parce que la confusion est tellement grande dans le domaine religieux, et je dirais aussi l'ignorance des vérités bibliques est si profonde que des multitudes ont seulement des notions très incomplètes et très vagues, ou même souvent erronées au sujet de ce qu'est l'Église. Vous savez que l'on peut rencontrer premièrement, des gens pour qui l'Église, quand on leur en parle, ben, ils pensent tout de suite à un édifice de pierre, cathédrale, temple, chapelle, lieu où l'on va rendre visite, comme on l'entend si souvent encore, au bon Dieu, célébrer son culte ou écouter un sermon, assister à un office ou simplement aller à la messe. L'église, c'est le bâtiment où l'on va à la messe, où on va au culte. Et viennent ensuite ceux dont l'intelligence repousse vraiment un tel abus de langage, et pour qui, encore maintenant, et peut-être de plus en plus, la seule vraie église du Christ est l'église romaine. Surtout quand on est dans un contexte catholique. Alors, cette église romaine n'est-elle pas la plus ancienne et aussi la plus unie? Non, je croyais aussi. La plus nombreuse, entendons-nous? Et en dehors d'elle, pendant longtemps, on nous disait qu'il ne pouvait pas y avoir de salut. Vous connaissez cette expression, hors de Rome, pas de salut, de sorte qu'il y aurait eu en dehors de l'église romaine que des rassemblements d'hérétiques, tous divisés les uns contre les autres, alors que des personnes mieux informées disaient déjà avant Vatican II, eh bien quand même des gens sincères et pieux peuvent faire partie de ce qu'ils appelaient l'âme de l'Église. Ça, c'était déjà avant Vatican II, on admettait qu'il y avait en dehors de Rome des âmes pieuses qui, sans faire partie du corps de l'Église, hein, mais faisaient partie de l'âme de l'Église. Aujourd'hui, après le Concile de Vatican, la définition que l'on donne habituellement de ce qu'est l'Église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu, l'ensemble des gens qui croient en Jésus-Christ. Et je dirais que si on questionnait certaines personnes qui alors font de leur séparation de l'Église romaine la pierre de touche de leur fidélité, on peut dire que plusieurs ne voyaient l'Église ou ne voient encore l'Église que dans les membres de leur communauté, de leur association cultuelle à laquelle ils se rattachent ou, depuis leur naissance, leur conversion ou d'autres circonstances. Et la plupart du temps, ces milieux défendent une doctrine particulière. Je dirais que leur erreur ou leur hérésie n'est pas d'introduire nécessairement des éléments extra-bibliques dans leur enseignement, mais d'isoler artificiellement de son contexte un élément particulier de la vérité, élément qu'elles érigent en absolu. Et ce particularisme, cet exclusivisme font inévitablement de ces dénominations des groupements sectaires dont les dirigeants, hélas, il faut aussi le reconnaître, deviennent souvent de véritables petits papes. Et c'est une grande souffrance pour beaucoup de personnes qui ont souffert de la domination d'un grand pape et qui ont abandonné l'Église romaine et qui se retrouvent maintenant dans un milieu d'hymne évangélique, mais où elles se rendent compte qu'elles doivent être soumises à la direction d'anciens ou d'un pasteur qui les gouverne d'une façon encore plus draconienne qu'un pape. Alors, ça, c'est une grande déception pour beaucoup de ces âmes qui disent « Alors, à quoi ça sert? J'ai voulu me libérer d'un joug et je me trouve sous un autre joug et puis avec des contraintes et des interdictions de tous les côtés. Ce n'est pas cette liberté après laquelle ils soupiraient et qu'ils connaissent dans ces lieux qui pensent être vraiment une église véritable. » Puis il se trouve alors des gens qui ont une vision beaucoup plus large et certains voient l'Église, quand on leur pose la question « qu'est-ce que l'Église ?» dans l'ensemble des croyants de tous les âges. Et ils identifient l'Ecclésia du Nouveau Testament à l'Assemblée du désert de l'Ancienne Alliance. Et l'Église, au fond, serait simplement la continuation de l'Assemblée d'Israël, l'Assemblée du désert de l'Ancien Testament. Vous trouvez encore d'autres personnes qui pensent, au contraire, que l'Église a une vocation tout à fait distincte de celle d'Israël. Et que l'Église est formée de tous ceux qui, depuis la Pentecôte, ont accepté l'Évangile et sont nés à une vie nouvelle, cherchant désormais à marcher ici-bas comme le Christ a lui-même marché. Et pour eux, l'Église véritable trouverait sur la terre son expression visible dans le rassemblement des vrais croyants réunis au nom de Jésus. Ne serait-il que deux ou trois? L'Église véritable serait donc ce rassemblement des deux ou trois croyants en communion avec tous ceux que le Seigneur reconnaît pour les siens. Je dois aussi mentionner que l'on rencontre des gens pour qui l'Église serait simplement composée de tous les baptisés, de tous ceux qui acceptent le christianisme comme religion officielle, quel que soit leur credo individuellement ou leur position vis-à-vis du Christ. Mais il y a deux jours, j'entendais des personnes qui disaient « Mais nous ne croyons pas à la divinité du Christ, mais nous faisons partie de l'Église, n'est-ce pas ?» Nous avons quand même été baptisés, nous faisons partie de l'Église, mais on ne croyait pas à la divinité de Jésus-Christ. Alors c'est simplement pour vous dire un peu la confusion qui règne dans les esprits au sujet de ce qu'est l'Église. Et je dirais qu'il y a une septième catégorie de personnes qui nous disent, eh bien, Pour nous, l'Église, elle se trouve dans la grande synthèse de toutes les religions dont le rassemblement de tous les hommes de bonne volonté, et ça c'est très courant aujourd'hui, qu'ils soient hindouistes, musulmans, juifs, catholiques, orthodoxes, protestants, tous ceux qui sont des hommes de bonne volonté, et qui se proposent le réarmement moral du monde, eh bien, c'est eux qui forment l'Église. C'est presque du baïsme, ce temple que vous voyez à Haïfa, où, au fond, toutes les religions sont ensemble, il y en a 9 qui sont ensemble, et ce serait cela, l'Église. Alors, je vous le demande, où est la vérité? Je ne sais pas ce que vous auriez écrit, si je vous avais donné à tous une feuille de papier, en vous demandant qu'est-ce que c'est que l'Église pour vous. Quelle est votre notion au sujet de l'Église? Est-ce que vous avez discerné dans ces quelques points que je vous ai donnés où pourrait être l'explication la plus sûre de l'Église? Où est la vérité? Alors, mes amis, si le problème était d'ordre médical, nous le disons souvent, nous consulterions des livres de médecine. S'il était d'ordre juridique, nous étudierions un code, des recueils de lois. Mais puisqu'il est d'ordre religieux et essentiellement chrétien, il est donc normal que dans ces journées, nous consultions la Bible. Et dès lors, puisque vous connaissez nos sources et que vous avez tous vos Bibles, il vous sera facile d'examiner et de contrôler si nos assertions correspondent à l'enseignement du Christ et de ses apôtres. J'aimerais tout d'abord vous faire un petit résumé de ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. La lecture de l'Ancien Testament nous permet de constater que le monde y est divisé en deux groupes distincts. Vous avez tous remarqué cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas lu l'Ancien Testament? Quand on lit l'Ancien Testament, on voit le monde divisé en deux groupes distincts. Il y a d'un côté les nations qui ont pour règle de conduite la raison humaine et la conscience, peuple idolâtre, privé de la connaissance du vrai Dieu. Et puis d'autre part, vous trouvez un peuple, le peuple d'Israël, ce peuple qui marche au milieu des nations, mais à la lumière d'une révélation divine. Il possède la loi de Dieu, la loi d'un Dieu unique et tout-puissant, mais vous constatez qu'il a beaucoup de mal à accomplir cette loi et à se maintenir à la hauteur de ses privilèges. Et quand vous arrivez au Nouveau Testament, vous voyez dès les premières pages du Nouveau Testament, les Juifs et les nations, les Juifs descendants d'Israël, et les Romains, qui sont les représentants des nations, vous les voyez rassemblés dans cette terre de Palestine. Et jusqu'alors, ennemis, ils se mettent d'accord pour crucifier Jésus-Christ, le seul être qui a accompli parfaitement la loi, celui qui aurait dû être le sujet de gloire des Juifs. Ces Juifs le livrent à Pilate, et ce dernier qui aurait dû protéger la vie d'un innocent, vous le savez, il violente sa conscience et le fait mourir comme un criminel. Il fait mourir celui qui était le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Et alors, dès ce moment, Juifs et nations qui se trouvent réunis à la croix sont manifestement coupables du plus grand crime, car ensemble, ils ont tué Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est très frappant. Dans l'Ancien Testament, le monde est divisé en deux. Les nations qui ont pour les conduire leur conscience, leur raison, et puis les lois naturelles, puis un autre, un peuple, au milieu des nations, peuple privilégié, peuple descendant d'Abraham, mais auquel Dieu a confié une loi, la loi divine. Ça, c'est ce que vous voyez dans l'Ancien Testament. On résume ça, deux catégories de personnes. Mais dans le Nouveau Testament, dès les évangiles, vous avez ces deux groupes qui sont ensemble sur cette terre de Palestine où paraît Jésus. Et ces deux groupes qui étaient ennemis, eh bien, se mettent d'accord pour tuer le Fils unique de Dieu, pour tuer Jésus-Christ. De sorte que maintenant, et les Juifs et les nations sont coupable devant Dieu. On assiste à la faillite de la religion naturelle, de la religion de la conscience et de la religion de la loi. Tous sont coupables devant Dieu. Rien n'a pu empêcher leur passion de se manifester, de sorte qu'il ne reste plus pour les uns et pour les autres qu'un seul espoir, la grâce et la miséricorde de Dieu. Et cette grâce, Dieu l'a fait proclamer par les disciples du Christ ressuscité. Aussi, dès le livre des Actes des Apôtres, quand vous continuez votre lecture, vous voyez surgir soudainement un troisième groupe. Jusqu'ici, il y avait deux groupes. Maintenant, surgit dès les Actes des Apôtres un troisième groupe qui se manifeste dans le monde. Et ce troisième groupe, il est formé de ceux qui acceptent le salut en Jésus-Christ et qui, croyant à l'Évangile, se convertissent au Seigneur. Et dans le chapitre 15 des Actes, il est dit que ces gens sont tirés des deux premiers groupes et deviennent ici-bas un peuple qui porte le nom du Seigneur. Acte 15, verset 14. Et c'est pourquoi nous disons que depuis les Actes, le monde se trouve divisé en trois groupes que l'apôtre Paul distingue nettement dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 10e, quand il dit « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Voilà le troisième groupe qui surgit. Un troisième groupe se trouve dans le monde, l'Église de Dieu, qui n'est pas les Grecs, qui n'est pas les nations, et puis qui n'est pas non plus les Juifs. Mais cette Église de Dieu est formée de ceux qui, du sein des Juifs, se sont convertis au Seigneur et du sein du paganisme ont été amenés à se détourner des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et cette Église de Dieu, alors maintenant nous y sommes, nous voudrions apprendre à la connaître. Que savons-nous au sujet de cette Église de Dieu? Bien, c'est dans l'Évangile, selon Matthieu, que nous rencontrons pour la première fois le mot « église », en grec « ecclésia ». Jésus se trouve dans cette région de Césarée de Philippe, au pied de l'Hermon, et il vient de poser cette question à ses disciples d'une façon très précise. Il leur dit « Qui dites-vous que je suis ?» Et vous connaissez la réponse des uns et des autres. Et finalement, Jésus leur dit, mais vous, qui suis-je pour vous? Alors l'apôtre Pierre répond sans hésiter, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est alors que Jésus dit au chapitre 16, donc de Matthieu, versets 13 et suivants, tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La confession que l'apôtre Pierre vient de faire n'est pas sortie de son cœur naturel. On peut dire qu'il a vraiment parlé sous l'inspiration de Dieu et que son témoignage au sujet du Christ est véritablement infaillible. Là, on pourrait dire que Pierre a parlé ex cathedra, pour employer une expression bien connue dans l'Église romaine. Il a donné une parole infaillible. Mais pour quelle raison? Parce qu'il a reçu cette révélation d'en haut. Cela n'est pas sorti de son cœur naturel. Parce que quand il sortira quelque chose de son cœur naturel, eh bien, le Seigneur lui dira, « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais aux choses des hommes. » Donc, vous voyez que le même homme peut être, à un moment donné, le canal de l'Esprit de Dieu, et puis, à un autre moment, le canal de Satan. Mais c'est là que vous trouvez pour la première fois le mot « Église » dans le Nouveau Testament. Et Jésus ajoute en parlant à Pierre, « Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus parle donc ici d'une réalité qui existe déjà ou d'une réalité future. Puisqu'il dit « Je bâtirai mon Église », c'est d'une réalité future. Hein. Jésus parle de son Église comme d'une réalité future qui est distincte d'Israël et qui sera bâtie par lui-même et triomphante de la mort. Alors, il est inutile de discuter sur le sens des paroles que Jésus a dit à Pierre, car tout exégète sérieux, qu'il soit catholique, orthodoxe ou protestant, tout exégète sérieux reconnaît que Jésus-Christ est le fondement irremplaçable de son Église. Et je lisais déjà un commentaire des pères jésuites en 1937, vous voyez que c'était loin, où justement je trouvais cette phrase « Nous savons tous que la pierre angulaire de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. » Et au lieu de toujours dire « L'Église catholique dit que, l'église, que son Église est bâtie sur l'apôtre Pierre », eh bien, cherchons un peu à nous documenter, même si des prêtres disent cela, ce ne sont pas les exégètes catholiques sérieux qui ont affirmé cela. Et j'étais assez heureux d'entendre le pape Jean-Paul II déclarer d'une façon non équivoque, quand il a touché le territoire québécois, il a dit d'une façon très claire que la pierre fondamentale, la pierre sur laquelle se trouvait bâtie l'Église, c'était Jésus-Christ. Et il l'a souligné à plusieurs reprises. Et que Pierre avait simplement confessé la foi de l'Église en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et que lui-même, Jean-Paul II, venait dans ce pays pour confesser à la suite de Pierre la même foi. Que c'est le Christ, la pierre angulaire, la pierre fondamentale de l'Église. Et que chaque croyant, les apôtres d'abord, et bien sûr Pierre sur la pierre, mais les apôtres sont des pierres vivantes qui sont posées sur la pierre. Et il a même cité un verset que nous aimons beaucoup, nous autres évangéliques, Actes chapitre 4, versets 11 à 12. Mais ce qui me fait souvent de la peine, c'est de voir que si une parole vraie sort de la bouche d'un pape, nous faisons la grimace. Hein. Ça ne nous plaît pas. Hein. Peut-être que si ça sortait de la bouche d'une ânesse qui se mettait à parler, alors nous serions émerveillés, parce que nous sommes des gens qui aiment les miracles. Hein. Mais quand Dieu emploie un homme pour dire une vérité, on ne se réjouit pas. Hein. Ah, parce que oui, mais... Au lieu de se dire, mais prenons au moins ce qu'il a dit de bon. Et puis, ça nous donne des arguments pour parler à d'autres, n'est-ce pas? On ne commence pas à faire un fossé entre nous, mais on prend déjà une base sur laquelle on peut être d'accord. Et puis, on peut bâtir quelque chose avec ça. Donc, ce n'est plus une discussion, ça, de savoir qui est la pierre. Nous savons que c'est Pierre... C'est Jésus-Christ et que toute Église véritable confesse que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et que tous ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent des pierres vivantes, comme l'avait compris lui-même l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 14. Je ne veux pas allonger, puisque je ne fais là que juste une introduction, parce que le vrai sujet, je le commencerai demain, on m'a dit que plusieurs personnes n'étaient pas là. Alors, les questions de ce qui se passe dans l'Église, nous aborderons cela demain. Mais j'ai pensé plutôt déblayer le terrain en vous parlant de ce qu'est l'Église. Alors, pour savoir ce qu'est l'Église, il faut donc connaître le Christ, puisque c'est le Christ qui est la pierre angulaire. Car l'Église n'existe que par lui et en lui. Et on peut dire que là où le Christ se trouve, il y a Église. En dehors de lui, il n'y a pas d'Église, mais seulement des communautés, des associations, mais non l'Église qui est son corps, un organisme vivant et non une organisation. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez que l'Église, dans la pensée de Dieu, ne devait pas être simplement un troupeau de brebis rassemblés autour d'un berger, mais le corps même de Jésus-Christ, chaque croyant étant un membre de ce corps et le Christ étant la tête du corps dans le ciel. Et ce corps formé de membres qui sont unis vitalement à la tête ne pouvait être manifesté qu'après la mort et la résurrection du Seigneur. Pour que ces membres soient unis à la tête, il fallait la mort du Seigneur. Il a pris ses disciples et tous ceux qui croient, les a pris avec lui dans sa mort pour mettre fin à notre vie propre, puis c'est dans sa résurrection que nous naissons à une vie nouvelle, et c'est ainsi qu'a commencé l'Église. Il ne pouvait pas y avoir d'Église avant la mort et la résurrection du Sauveur. La mort du Sauveur allait donc rendre possible notre identification au Christ. En elle, comme je le disais tout à l'heure, nous trouvons par la foi la fin de notre vie propre et dans la résurrection de Jésus, nous trouvons le principe et la puissance qui nous permettent de marcher vraiment en nouveauté de vie. Et c'est à la Pentecôte que les disciples furent baptisés d'un seul esprit, est-il dit, pour former un seul corps. Donc, c'est à la Pentecôte, c'est après la résurrection de Christ et son ascension dans la gloire, que la promesse du Père s'est réalisée et que ce corps a été manifesté. Jusque-là, il y avait des croyants isolés. Mais depuis la Pentecôte, ces croyants isolés ont formé un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et ils ont tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Et en envoyant le Saint-Esprit sur la terre, le Fils du Dieu vivant accomplissait donc sa promesse et fondait son Église. C'est pourquoi c'est dans les Actes, si on a trouvé une fois ou deux seulement dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, le mot Église, c'est dans les Actes qu'on commence à parler vraiment de l'Église. Et par le canal de son apôtre, par le canal de Pierre, et ça vous pouvez pas le nier, c'est inutile de le nier, Dieu a confié à Pierre, son apôtre, le grand confesseur de la foi, il lui a confié une mission, et ce n'est pas son reniement qui a empêché l'apôtre Pierre d'accomplir cette mission, parce que l'apôtre Pierre, après son reniement, s'est humilié, il a été restauré, et la promesse que le Seigneur lui avait faite, qu'il lui donnerait les clés du royaume de Dieu, il les a eues. Et c'est lui, en effet, qui a été employé pour ouvrir le royaume de Dieu, d'abord aux Juifs, à la Pentecôte, hein. C'est lui qui a prêché, et les gens ont été bouleversés bouleversés, ont été saisis par sa prédication et se sont écriés « Que ferons-nous ?» C'est l'apôtre Pierre qui leur a indiqué le chemin, mais c'est aussi lui qui a ouvert le royaume des cieux à qui ? Aux païens, c'est Corneille. Et c'est ainsi qu'il a vu se réaliser cette parole « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». La promesse de son maître s'est accomplie. De sorte que nous voyons que c'est par la prédication de l'Évangile que le Seigneur, il l'a dit après, ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés à l'Église. Mais par quel moyen ? Par la prédication de l'Évangile. Alors là, vous lisez les actes. En acceptant Jésus-Christ, il ne devenait pas membre d'une association particulière, mais il devenait membre d'un organisme vivant et se trouvait lié au Christ, et en même temps lier les uns aux autres. Par quoi ? Par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, s'il a lieu, il ne nous isole pas. Il nous lie à tous ceux qui appartiennent au Seigneur. C'est très important de souligner cela. Ce que je vous dis ce soir n'est qu'une préparation pour mieux comprendre les quatre persévérances dont nous nous occuperons à partir de demain. Et leur unité était l'unité de l'esprit, une unité qu'ils n'avaient pas à créer, mais à garder. Par quel lien ? Le lien de la paix. Gardant l'unité de l'esprit. J'ai jamais dit qu'on crée l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, elle est donnée par le Saint-Esprit. Et nous, nous avons à veiller à la garder. Éphésiens 4, verset 3. Et quant à sa mission, bien l'Église n'avait pas du tout comme mission de christianiser le monde. C'est une grande erreur. Mais la mission de l'Église, c'était d'évangéliser le monde. Dieu choisissant au milieu des nations un peuple qui porte son nom. Notre tâche n'est pas de christianiser le monde, mais de l'évangéliser. Et l'évangélisation véritable, elle ampute le monde. Or, vous connaissez aujourd'hui bien des théologiens qui vous disent que l'Église, maintenant, pour faire avancer l'Évangile, il faut qu'elle se convertisse au monde. C'est une des dernières grandes théories. Que l'Église se convertisse au monde, c'est pas le monde à se convertir à l'Église, c'est l'Église qui doit se convertir au monde et ça ira beaucoup plus vite. Et oui, ça prépare en tout cas celui qui doit venir. Eh bien, nous voulons vraiment nous pénétrer des vérités essentielles que nous trouvons dans l'Écriture au sujet de l'Église pour que nous puissions avoir vraiment nos pieds sur le roc. L'évangélisation, elle ne transforme pas le monde, elle l'ampute. Et l'Église est dans le monde, mais n'est pas le monde. Et cette Église, dans sa vocation, quand nous lisons les Épîtres, elle n'avait pas non plus à s'installer sur la terre. Mais elle avait, comme il l'est dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, à servir le Dieu vivant et vrai et à attendre le retour du Christ, qui est sa seule et bienheureuse espérance. Elle avait à souffrir ici-bas pendant le temps de l'absence de son maître. Elle devait accepter cette dimension de la souffrance. Mais si aujourd'hui l'Église est humiliée dans le monde, ce que nous savons, c'est que sa destinée, c'est de régner avec Christ un jour et d'être semblable à lui. Mais tant que le Seigneur n'est pas venu, l'Église ne peut pas s'installer dans le monde, l'Église ne peut pas régner, l'Église ne peut se rendre témoignage. Alors, quelles sont, je dirais tout ça très brièvement, les différentes images de l'Église de Dieu qui nous sont données dans le Nouveau Testament? Bien, dans ses relations avec Dieu, c'est des choses que vous savez certainement, mais je voudrais simplement les souligner avant de faire notre étude proprement dit. Dans ses relations avec Dieu, qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est la famille du Père Céleste, qui est composée de tous ceux qui ont reçu le Christ et qui sont devenus enfants de Dieu. Alors, les enfants d'un même Père sont donc les uns pour les autres. Quoi? Des cousins? Des frères, n'est-ce pas? Puisqu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Il faut savoir comment on devient des frères. Les enfants d'un même Père sont des frères. Donc, nous sommes l'Église, c'est la famille du Père Céleste. Et quand je pense, oui, il y a 3 jours, on nous a dit encore, il ne faut pas présenter Dieu comme un Père, surtout pour que c'est. Parce qu'on a une trop mauvaise image du Père. Parlez de Jésus, Jésus, oui, mais votre Jésus à toutes les sauces. Votre Jésus, qu'est-ce que c'est que ce Jésus? Un Jésus qui ne nous conduit pas au Père, je ne le connais pas.
Le Seigneur, tu m'as montré dans le ciel, je fais pas ça pour que je sois avec toi. Parce que tu es là-dedans, tu es avec toi. C'est comme ça qu'il m'a montré. La conversation finit, nous avons sans parler, mais je dis, bien intéressé, mais je sais pas si tu veux le Seigneur, ça continue, si c'est ça que vraiment je lui montre. Et le royaume, il me l'a donné. Mais je lui dis, c'est dans le ciel.
Mais moi, je sais bien comme le Saint-Fils, c'est un pour le dimanche, il y a une histoire qui m'a touché hier soir, c'est Rahab. Rahab, c'était une prostituée, et elle se voit perdue, c'est qu'elle nous pleure pour sa vie. Ça ne voyait pas perdue, elle avait pas pleuré pour sa vie. Et puis, elle est pleure pour sa famille. La seule signe de cette qui lui reste, après que les deux gars sont partis, c'est un bout de foutu écarlate. C'est tout ça là. Ça fait ce bout de tissu là, de foutu. Parce que les gars ne pourront pas reconnaître la maison. Parce qu'il dit, on verra le bout de tissu écarlate. Alors, tout de suite, Rahab la cache au, à la fenêtre. Elle ne prend pas de chance. Elle ne peut pas le faire. Et puis, là, elle, là, sans la foi que la parole lui dit, qu'elle a agi comme ça, mais elle a la foi dans son salut, elle a la foi qu'elle va être sauvée, elle a la foi dans ces deux gars-là. Mais il faut qu'elle aille convaincre sa famille. D'abord, elle les aime, elle porte en elle la souffrance qu'on pourrait dire en guillemets de Christ, vis-à-vis que les gens peuvent mourir. Sa famille va mourir s'ils ne sont pas dans sa maison.
Oui, elles
ne sont pas dans la maison.
Il
faut qu'elle les convainque de venir dans sa maison. C'est que nous, si on avait comme elle, pour qu'elle est convainque de venir chez elle, pour qu'elle soit assurée qu'elle est bonne.
Merci. Pour ça, j'avais pas mal partagé sur le verset 2. Avec la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc de prendre l'offre avec patience dans les événements. Il y avait eu certains commentaires qui disaient que il y en a qui prêchaient, mais ça prêchait trop sévèrement, tout semblable. Et justement, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent peut-être annoncer la parole avec sévérité, en tant l'amour, mais c'est pas ça que la parole dit. Fait que, je pense qu'ils sont tentés à ce verset-là de ne pas manquer l'occasion de prêcher, d'annoncer la parole, et puis avoir de l'amour, de la patience, et aussi on avait dit que si vraiment on connaissait la parole, on trouverait souvent des occasions. Il y a probablement une occasion pour toutes les facettes de la vie qu'on pourrait utiliser si on la connaissait vraiment.
J'aime tellement cette expression. Jésus lui-même ne s'est jamais attribué une conversion. Combien de gens avez-vous converti, vous? Nul ne peut venir à moi, disait Jésus, à moins que le Père ne l'attire. Voilà ce que disait Jésus. Donc, quand une âme vient à Jésus, qu'est-ce qu'il a attiré? C'est pas ma prédication d'abord. C'est cette puissance du Père qu'il a attiré à Jésus. Jésus sauve l'âme, puis après il la garde pour lui. Non, il l'a conduit au Père. Si nul ne peut venir à lui sans que le Père ne l'attire, une fois que Jésus a accompli l'œuvre du salut de cette âme, il ne la garde pas pour lui, il la conduit au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est cela qui est merveilleux. Et au fond, ce que Jésus nous apporte, c'est cette connaissance du Père. Un Jésus qui ne fait pas connaître le Père, c'est un Jésus qui me laisse orphelin. Or, c'est pas Jésus, ça. Jésus me donne un Père. Jésus m'amène dans cette relation d'intimité avec Dieu de telle sorte que je puis dire, je suis un enfant de Dieu. Je connais le Père. Mon Père céleste, que j'aime à dire que c'est un père au cœur de mère. Ne venez pas dire, oh, ces gens-là, ces prédicateurs, et ils parlent toujours au masculin de Dieu. Nous voudrions maintenant qu'on en parle au féminin. Hein? Parce que pourquoi est-ce que Dieu ne ferait pas une femme maintenant qu'il y a l'émancipation de la femme? Eh bien, il faudrait aussi changer les choses là-haut. Parce que Marie, ça ne suffit pas. Hein? Même si dans certaines églises, on a donné une place à Marie, eh bien, ceux qui sont dans cette église ne sont pas du tout satisfaits de Marie. Parce que, figurez-vous, on disait qu'elle était vierge. Alors ça, on n'aime pas beaucoup Marie. Même dans ce milieu-là. Parce que maintenant, des vierges, on en a assez. On fait tout le contraire. Alors, donc, Marie, ça peut pas être Dieu... Dieu au féminin, non, 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 c'est pas ça. Ce qu'on voudrait, n'est-ce pas? C'est un autre Dieu. Mais mes amis, quelle folie! Dieu est un père au cœur de mère. Comme quelqu'un que sa mère console, ainsi je vous consolerai. La Bible me présente un Dieu père, mais qui a un cœur de mère. Il n'est pas question de sexe en Dieu, nous sommes des insensés. Alors laissons toutes ces discussions de côté. L'Église, dans ses rapports avec Dieu, c'est la famille du Père Céleste. Et on devient membre de cette famille par la nouvelle naissance. Puis on devient frères les uns pour les autres. Et dans ses relations avec le Fils, l'Église nous est présentée comme le corps de Christ. Le Christ est la tête de ce corps dans la gloire, et tous ceux qui sont unis à lui par une foi vivante sont donc les membres de son corps. Et il est dit que comme le corps n'est pas sans la tête et la tête sans le corps, ce que j'appellerais le Christ total, c'est Jésus et l'Église. Il n'y a plus un Jésus seul. Le Christ total, c'est la tête et le corps. Et quand vous touchez à un membre du corps sur la terre, vous touchez à la tête qui est dans le ciel. Lié ainsi au Christ, dépendant directement de lui, les croyants sont également intimement unis les uns aux autres, de telle manière que si un membre souffre, tous les autres souffrent. Si un membre est glorifié, tous les autres glorifiés. Et c'est quelque chose de merveilleux de penser que l'apôtre Paul a eu cette révélation tant sur le chemin de Damas, il entend Jésus qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais il n'a jamais persécuté Jésus, il ne l'a pas connu selon la chair. Mais il apprend que quand il touche à un membre de son corps, quand il touche au chrétien, c'est à Jésus qu'il touche. Et quand on touche à un frère, c'est à qui on touche? C'est au Christ lui-même. Et cela, nous devrions nous en souvenir davantage. Et nous changerions complètement d'attitude et de jugement aussi vis-à-vis de nos frères. Et si un membre souffre, tous les autres souffrent. On est liés les uns aux autres. Et alors, dans ces relations avec le Saint-Esprit, eh bien, l'Église nous est présentée comme un temple spirituel. C'est donc la pierre angulaire, les apôtres, les pierres de fondation, et chaque âme qui est arrachée au monde par l'Évangile devient une pierre vivante, et l'édifice se construit dans le monde, mais il est distinct du monde. Et quand la dernière pierre sera posée sur l'édifice, quand le dernier des élus sera manifesté, l'Église étant achevée, eh bien, il pourra la prendre auprès d'elle, accomplir ce qu'il a promis. Et voyez-vous, quand le Christ apparaîtra au monde, pourquoi est-ce que je crois à l'enlèvement de l'Église, alors qu'il y a beaucoup de courants théologiques, même parmi les évangéliques, qui n'y croient pas? Eh bien, je crois à l'enlèvement de l'Église d'abord, parce que quand le Christ reviendra, c'est le Christ total. Il sera vu par le monde, tête et corps réunis pour la première fois dans cette unité glorieuse. Ce n'est pas à nous les hommes, avec le mouvement œcuménique ou d'autres choses, qui pourront arriver à l'unité. Mais quand le Seigneur le trouvera bon, il enlève tous ceux qui lui appartiennent. Les morts en Christ sont ressuscités premièrement, nous les vivants, nous sommes enlevés, nous paraissons devant le Seigneur au tribunal de Christ, toutes choses sont mises dans la lumière, les récompenses sont données, et alors le Christ peut revenir en gloire, tête et corps apparaissant dans cette gloire entière. C'est le Christ total qui revient et qui est manifesté au monde. Voilà ce que nous croyons en lisant les Écritures. Alors, dans ses rapports avec le monde, on a vu dans ses rapports avec le Saint-Esprit, c'est donc un édifice, c'est le Saint-Esprit qui arrache les pierres au monde et qui les taille, qui les façonne dans l'édifice, mais dans ses relations avec le monde, l'Église est appelée la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Et ceux qui composent cette maison auront donc une ligne de conduite très précise et ne se conformeront pas à ce présent siècle mauvais, mais rendront témoignage à la vérité, manifestant qu'ils sont des étrangers ici-bas, des bourgeois des cieux, et des gens de la maison de Dieu. Enfin, une dernière chose, envisagée dans sa marche sur la terre, l'Église est considérée comme l'épouse du Christ, qui, telle une fiancée, se prépare pour le jour des noces et se réjouit d'être totalement à son bien-aimé. Est-ce qu'il y en a encore parmi vous qui se réjouissent du retour du Seigneur? Qui aspire à cela. Non pas simplement qui croit, il reviendra pour juger les vivants et les morts, hein, comme dit le credo, mais qui attendent le Seigneur, ne sachant ni le jour ni l'heure, mais qui sont prêts à tout moment pour disparaître de ce monde, être auprès du Seigneur, mais qui l'attendent d'une attente amoureuse. Ça change tellement une vie, ça transforme tellement l'existence. Eh bien, mes amis, j'aurai bien des choses encore à vous dire, mais l'heure est là et nous voulons abréger ce que nous aurions pu dire encore au sujet de ce qu'est l'Église du Christ de nos jours. On aurait pu répondre à cette question, mais nous envisagerons cela demain. Alors, demain, nous essayerons d'apprendre, à la lumière des Écritures, ce que peut être la vie dans l'Église. Et le texte que nous avons proposé se trouve dans le chapitre 2 du livre des Actes. Ceux qui étaient sauvés, ceux qui faisaient partie de l'Église, il est dit qu'il... Verset 42...
ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Demain matin, nous prendrons « Il persévérait dans la doctrine des apôtres » et nous essayerons de voir ce que c'était que la doctrine des apôtres ou l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas du tout un enseignement occasionnel. C'est un enseignement méthodique. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Puis on verra qui pouvait enseigner ainsi. Puis, demain après-midi, nous étudierons ce que c'est que la communion fraternelle. Et j'ai vraiment demandé à Dieu que cette seconde réunion puisse être utile. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la communion fraternelle. Ce n'est pas parce qu'on est frères et sœurs en Jésus-Christ qu'on peut tout se permettre. Et s'ingérer dans les affaires d'autrui. On va voir. Ce qu'est la communion fraternelle et ce qu'elle n'est pas. Parce qu'il y a un tas de misères dans nos milieux qui viennent parce qu'on ne sait pas ce que c'est que vraiment la communion fraternelle. Et alors on a toute espèce de germe de division parce qu'on ne sait pas ce qu'est la communion fraternelle. Puis, il est parlé des prières. Eh bien, si on arrive à demain soir, on se penchera sur ce que l'Écriture nous dit au sujet de la prière ou les prières, la persévérance dans les prières. Et enfin, dans le culte du dimanche matin, avant la Sainte Cène, nous verrons la quatrième persévérance, qui est citée en troisième lieu ici dans le texte. Il persévérait dans la fraction du pain. Et chaque matin, à partir de demain matin, je raconterai à la fin du repas une histoire pour les enfants, pour que les enfants aient aussi une part. Alors demain matin, il y aura une histoire spéciale pour les enfants, mais on la racontera pendant que vous êtes encore au repas, à la fin du repas, et comme ça ira bien. Et dimanche matin, nous ferons de même. Nous nous bornerons donc à ces quatre persévérances pour cette fin de semaine, mais évidemment, on aurait pu en ajouter d'autres. On aurait pu parler de sept persévérances, donc la doctrine des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, mais aussi la persévérance dans la grâce, que vous trouvez dans Acte 13, la persévérance dans la foi, dans Acte 14, et la persévérance dans les bonnes œuvres. Mais nous voulons nous arrêter là et demander au Seigneur qu'il nous donne sa bénédiction.